L'agriculture est un domaine en permanente transition et nous vivons dans un territoire riche en initiatives agricoles et alimentaires.
C'est pourquoi Radio Pays d'Hérault, en partenariat avec le Pays Cœur d'Hérault, a rencontré des agriculteurs et des agricultrices de différents horizons.
Ils nous ont parlé de leur quotidien, de leurs pratiques et de leurs difficultés, mais aussi de leur fierté et de leur passion d'exercer ce métier.
Découvrez-les à travers ces portraits.
J'ai rencontré l'abeille et en même temps j'ai commencé à méditer. Voilà, j'avais un passé où j'ai beaucoup fait la fête et il y avait cette recherche de sens en fait à ce moment-là parce que bon, j'avais un passé où j'étais électricien, je faisais beaucoup la fête et je suis descendu le sud quelque part pour me mettre au vert et découvrir ma vocation. Et donc ma pratique méditative m'a permis de découvrir la pratique de l'apiculture et de chercher en fait comment être au service de l'abeille et non pas utiliser l'abeille comme un moyen de gagner de l'argent. Alors je m'appelle Mathieu Quévreux et je suis apiculteur récoltant, j'ai aussi fait de la formation. Donc l'abeille, moi ça va faire 14 ans que j'ai rencontré l'abeille. Voilà, j'étais électricien avant et je suis descendu dans le sud en même temps que j'ai rencontré l'abeille, quoi.
Bonjour, donc je m'appelle Marion. Alors moi j'ai un parcours beaucoup plus récent dans le travail auprès des abeilles puisque ça fait 2 ans. Que je suis vraiment à temps plein avec Mathieu dans l'aventure. Auparavant, j'étais bibliothécaire, libraire, enfin, j'étais plus dans le domaine culturel et occitan. Et voilà, donc maintenant, changement de cap, mais pas tout à fait, puisque je trouve un lien avec la poésie, avec, voilà, pour moi, l'abeille a aussi cet aspect-là de beauté et que j'ai envie de valoriser, quoi.
Alors Mathieu a suivi l'abeille, vous avez suivi Mathieu.
On peut voir ça comme ça.
Non, elle a suivi l'abeille aussi quand même.
Ouais,
tu
en fait,
dit quand même, non, tu fais pas ça pour moi, tu fais ça aussi parce que ça t'intéresse.
Vous êtes tombé amoureux de l'abeille pour la suivre comme ça. En principe, c'est parce qu'on tombe amoureux. Un coup de cœur.
Ah ouais, un coup de foudre. Un coup de foudre. J'étais chez un agriculteur, justement, qui était apiculteur et viticulteur dans le Nature et Progrès, dans la Blanquette de Limoux. Et il a ouvert une rue, j'ai dit c'est ça. C'est ça, ça a été une radicalité. J'ai dit, je veux découvrir ce que c'est, comment ça fonctionne et tout. Et voilà, toute cette cohésion, toute cette fraternité qu'on peut voir un peu dans l'abeille, toute cette pureté, toute cette qui pique aussi, hein, on peut dire.
Alors, des ruches à Saint-Guilhem-le-Désert, je suppose.
Donc, une partie, ouais, à Saint-Guilhem-le-Désert. L'été, bon, il n'y a plus personne, hein, c'est trop sec. Et j'ai pas envie qu'elles aillent butiner dans les coca, les fanta et tout ça. Donc les ruches sont enlevées et de toute façon, il n'y a plus rien à butiner. Alors toutes les ruches, pendant l'hiver, elles restent dans le coin. Elles vont bon, voilà, dans la vallée de l'Hérault, hein, globalement. Et après, à partir de mai, pour les endroits qui sont secs, où il n'y a plus rien à manger, ça va partir soit dans l'Aveyron, soit ça va partir en Isère, soit dans le Vaucluse pour faire la lavande. Voilà, il y a un côté nomade qui me plaît bien quand même dans l'apiculture.
Alors, ça fait penser au bétail, c'est la transhumance des abeilles aussi, finalement.
Voilà,
on les amène à la montagne.
C'est ça, ouais. C'est ça. Ben là, j'ai commencé justement à les ramener. Parce que ben là, la saison là-haut est finie, j'ai fait la récolte de châtaignier, j'ai fait la récolte de la lavande. Il restera la lavande sauvage encore, mais qui est sur le Ventoux, là. Mais globalement, ouais, et après ça va redescendre et là on va commencer à préparer l'hivernage. La saison est finie là, quelque part.
C'est une pratique de tous les apiculteurs d'emmener les ruches à différents endroits pour avoir les différentes saveurs des...
En tout cas, dans le professionnel, oui. Après, les amateurs, ils transhument aussi, mais c'est plus avoir une ruche ou quelques ruches au fond du jardin. Mais on est sur un biotope qui est sec et qui n'est pas évident. Vous avez pu voir là au printemps où il n'a pas fait très beau. C'était très sec, après il a fait beau, il y a eu des orages, donc ça a relancé les colonies, mais c'est assez difficile de faire du miel dans ces conditions-là, quoi.
Probablement il y a des apiculteurs qui ne transhument pas, mais en tout cas dans nos régions, ne pas transhumer c'est extrêmement compliqué pour tout ce que vient de dire Mathieu.
Quand on parle de viticulture, il y a des cépages, quand on parle de bovins ou d'animaux, il y a des espèces. Chez les abeilles, vous avez toutes les mêmes ou il y a des espèces d'abeilles différentes?
Ouais, il y a des sous-espèces d'abeilles et tout ça. Il y a l'espèce locale, mais moi c'est vrai que c'est une abeille que j'ai eue à un moment donné, ce qu'on appelait l'abeille noire. Et maintenant, j'ai un peu de tout. Alors moi, je suis pour la mixité, c'est-à-dire je vais avoir de la Buckfast, c'est un hybride. Je vais avoir de la caucasienne, je vais avoir de la carnica, je vais avoir de l'italienne. C'est un mélange. Moi, je me suis dit que je voulais mélanger la diversité génétique pour avoir une meilleure résistance aussi aux maladies. Et après, je fais de l'élevage aussi, hein, évidemment, quoi.
Est-ce qu'elles se mélangent entre elles ou chaque espace, chaque territoire, il y a un type d'abeille?
À la base, la nature a fait qu'il y avait des écotypes. Après, l'homme a fait son business et sa commercialisation, et a fait de la recherche aussi pour produire plus, hein, et pour avoir des abeilles beaucoup plus rustiques aussi. C'est comme l'élevage, hein, comme les pédigrés. Il y a des reines où il y a du pédigré, où des reines à 200, 300 euros qu'on achète pour... c'est pas mon cas, mais pour avoir des lignées très, très précises sur ce qu'on veut faire avec l'abeille, quoi.
Et combien vous avez de ruches et d'abeilles ?
Là, alors j'ai compté, vous avez de la chance, j'ai compté hier parce que je ne savais plus où j'en étais. Là, j'ai à peu près 210 ruches, à peu près. Voilà. Donc là, c'est la première année que j'ai autant de ruches, hein. D'habitude, j'ai toujours monté petit à petit. C'est aussi mon éthique aussi d'avoir monté petit à petit mon entreprise sans m'endetter de trop.
Et vous avez commencé avec combien de ruches ?
Une.
Une, voilà, tout simplement.
Une
reine, ouais.
Ouais, j'ai commencé avec une. Après, j'ai fait des expériences. Mais je peux vous parler de mon éthique, oui. Par exemple, par rapport à Apis Sophia. Moi, quand je fais de l'apiculture, c'est pour mettre un objectif de faire les choses avec éthique et valeur. Donc évidemment, l'argent, on en a besoin pour vivre, on en a besoin pour créer des projets et tout ça. Mais c'est un outil. Donc Apis Sophia, donc ça m'a été inspiré en méditation. Apis, ça veut dire abeille, et Sophia, ça veut dire sagesse. Donc Apis Sophia, voilà, c'est la sagesse de l'abeille. Donc c'est dans cette dynamique de pouvoir être à l'écoute des abeilles grâce à la méditation créatrice. Et ça me permet de rentrer en communication avec les abeilles. Donc par moment, hein, ça demande évidemment des efforts et une pratique. Et ça m'a permis de recevoir des informations que j'ai mis après en pratique sur mes ruches. Notamment sur des ruches, actuellement le modèle standard sur les ruches, c'est les dadans. Les dadans, c'est des ruches qui ont été fabriquées par un industriel, c'est des ruches de production, c'est pas des ruches pour le bien-être de l'abeille. Donc ces ruches-là, le message que j'ai eu, ça a été de réduire un peu le volume à l'intérieur de ces ruches pour que les abeilles puissent être dans un volume qui lui est plutôt naturel, à l'état sauvage. Donc ça, c'est une expérience que j'ai eue, des informations. Et cette information, je l'ai retrouvée via un autre scientifique, par exemple, qui a trouvé que lui aussi, ce volume-là était le plus adapté aux abeilles, par exemple. Donc de mettre sur 7 cadres ou 8 cadres. Donc c'est mon chemin que j'ai fait par rapport à la méditation, mais on voit que des scientifiques peuvent avoir le même chemin et trouver une pépite de lumière ou une pépite de vérité.
Et qu'est-ce que vous appelez la méditation créative ?
Créatrice, c'est un moyen de se mettre en connexion avec l'invisible, en fait. Donc, par exemple, les êtres de la nature, les gnomes, les elfes et tout ça. Ouais, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, waouh, ça existe vraiment ? J'ai dit, je vais expérimenter pour voir si ça existe, comme une approche scientifique, en fait. C'est pas juste un dogme, c'est juste d'expérimenter les choses.
Et qu'est-ce que vous disent les abeilles, alors ?
Alors, les abeilles, c'est qu'elles souffrent pas mal, en fait. Moi, quand vous m'avez posé cette question-là, c'est que j'ai eu une expérience où j'ai senti beaucoup de souffrance que l'être humain faisait à la nature. Et ça m'a donné envie de continuer à avancer dans le bien-être de l'abeille et de pouvoir aider. Mais globalement, oui, le monde est en souffrance, et l'abeille, la nature est en souffrance, c'est un peu le message qu'elles auraient à dire.
Et comment vous faites justement pour qu'elles souffrent moins ?
Eh bien, donc du coup, pratique de la dimension des ruches, mon état d'esprit aussi. J'ai pas de portable, par exemple. Voilà, j'ai pas de portable. À la maison, il n'y a pas de wifi, on est tous en filaire. Voilà, ça c'est les ondes, je suis électricien de métier, donc je connais un petit peu le sujet. C'est d'être en cohérence de plus en plus avec la nature environnante et ce qu'on peut leur apporter. Quoi.
Ce qu'il faut expliquer, c'est que les abeilles sont sensibles aux ondes, puisque justement, c'est des animaux qui se géolocalisent, qui sont sensibles aux ondes magnétiques. Donc évidemment, certainement, que les ondes de téléphone influent aussi sur leur fonctionnement et peuvent être une source de pollution pour elles.
Alors, les abeilles, vous avez l'air de les aimer ? Elles vous aiment ?
Alors des fois quand je suis con, je reçois une petite piqûre et puis ça réaligne. Parce que je travaille avec des combinaisons, mais des fois je mets pas de combinaison en fonction de mon état d'être, en fait.
Parce qu'en fait, vous, un apiculteur, c'est un exploiteur. Parce que les abeilles, elles n'ont pas demandé à vivre dans des ruches et elles n'ont pas demandé à faire du miel pour vous. Donc en fait, c'est une forme d'exploitation esclavagiste, non ?
Alors l'abeille, quand même, c'est un des animaux, avec, il y en a d'autres dans le règne animal, mais qui donne en surplus. Ça veut dire que tout ce qu'elle peut produire, elle le fait en surplus. C'est-à-dire que moi, j'utilise juste le surplus de miel. C'est pas, voilà, par exemple, comparé à la fourmi, elle garde son truc et elle partage pas. Donc elle a cette dimension-là, l'abeille, c'est pour ça qu'elle est... Elle est si présente dans la mythologie, dans l'histoire, où on voit qu'elle représente des valeurs de vertu, de don, de sacrifice et tout ça. Et donc, c'est toujours après une dimension d'équilibre dans la relation à l'abeille. C'est bah, est-ce que je prends tout ou alors est-ce que j'en laisse un peu pour qu'elle puisse aussi manger leur miel et non pas du sirop pour venir équilibrer le manque de nourriture qu'il peut y avoir à un moment donné.
Ah, justement, parlons du sirop, parce que certaines de vos collègues achètent de la nourriture pour nourrir les abeilles.
Ah, c'est bah, ça turbine dur. Hein. Ça turbine dur. Hein. Moi, j'en achète un peu, hein. Je le cache pas. Après, je joue le jeu. Par exemple, cette année, j'ai amené les ruches sur l'acacia. Les abeilles avaient bien fait leur provision avant d'arriver sur l'acacia. Mais l'Isère, cette année, ça n'a pas été terrible. Il y a eu beaucoup d'orages, donc pas de mielée d'acacia, et elles ont tapé dans leurs réserves, ce qui fait que la colonie s'est comme amaigrie. Et pour faire du châtaignier derrière, la floraison de derrière, châtaignier et tilleul, bah, elles ont dû reprendre du poil de la bête. Un apiculteur peut, je dis bien, après c'est son choix, hein, mettre du sirop entre les deux mielées pour faire grossir la colonie. Et donc du coup, une fois que la colonie sera bien grosse, bah, là elle va pouvoir faire une belle mielée de châtaignier. Donc c'est aussi avoir des conséquences sur toute la saison si je nourris pas à des périodes. Je le choisis parce que j'ai envie que mes abeilles, moi, elles soient qu'elles mangent du miel. J'ai pas envie qu'elles mangent du sirop, quoi.
Il doit y avoir des qualités différentes de sirop.
Ouais, bah c'est du sucre. Sirop, en fait. C'est du sucre, bon, avec du glucose, du fructose, des voilà.
Des antibiotiques dedans, non?
Non, il n'y a pas d'antibiotiques.
Alors, est-ce que les abeilles, c'est malade?
Oui, il y a des maladies de la ruche, hein, effectivement. Bon, le gros problème, c'est le varroa. Donc c'est un tic, hein, c'est un petit vampire. Donc après, bah, c'est sûr qu'on peut le voir comme notre côté vampirique vis-à-vis de l'abeille, de toujours voler, un manque d'équilibre sur la ponction du miel qu'on fait aux abeilles. Mais voilà, ça c'est vraiment le facteur numéro un d'effondrement des colonies. Parce que lui, il va véhiculer beaucoup de virus après. Mais quand il est arrivé dans les années 80, ça a décimé énormément. Et maintenant... Je parlais d'essais, vous me demandiez combien j'avais de ruches à un moment donné. J'ai fait des essais où j'ai dit bah, je vais pas traiter. Ah, bah, j'ai commencé avec 20 ruches et puis l'année d'après ça a fait 50, 60. Et puis petit à petit je suis arrivé à 10, 15 ruches. Et donc il y a une grosse sélection naturelle, mais moi je traite à l'acide oxalique par exemple et à la glycérine. Après, bah, c'est surtout la pauvreté de l'environnement qui peut amener des déséquilibres dans la ruche ou alors d'avoir des souches qui peuvent amener quelques maladies. Mais globalement, c'est le problème number one. Quoi.
On dit aussi que si les ruches vont butiner dans des champs qui ont été tés avec un certain nombre de produits chimiques, eh bien, ça ramène à la maison ce qu'on a butiné.
Ouais, tout à fait. Ouais. Ça... Moi, j'ai pas de problème. Je pense dans le sud, on n'est pas trop lié à ça. Après, c'est peut-être sur des zones mogio où il y a beaucoup de pêchers, d'arbres et tout ça. Là, ça bombarde. Et donc, des fois, on peut avoir vraiment des cocktails, effectivement, qui vont petit à petit affaiblir la colonie. Ou le pollen va être nourri par... le pollen contaminé par des produits va être nourri après... Bah, les larves vont être nourries avec le pollen et donc du coup les larves vont mal se développer et tout ça quoi. Et après le miel aussi il peut être contaminé.
Bah, en tout cas, ce que je voulais préciser c'est que nos ruches vont rarement sur des floraisons de culture à part pour le lavanda en fait. Le reste du temps elles sont en nature, donc il n'y a pas de traitement à proximité au moment où en tout cas où on les met, donc ça limite le problème quoi.
Et au niveau des endroits où vous mettez vos ruches, est-ce que c'est des territoires qu'on vous prête? Est-ce que c'est des espaces qu'on vous prête?
Oui, en général, c'est un accord qu'on a avec des agriculteurs. Donc, on dépose les ruches chez eux contre rétribution en miel, en fait, en nature.
Quand je pense à abeilles, je pense aussi fourmis et je pense à exemple d'organisation collective du vivre ensemble, quelque part.
Oui, ben moi, c'est ça que je trouve fascinant chez les abeilles, c'est de voir comment elles fonctionnent et ce qu'on peut apprendre d'elles, en fait. Et en effet, le côté organisation collective, intelligence collective plus qu'organisation, parce qu'il n'y a pas de chef, il n'y a pas de, c'est pas pyramidal. On parle d'une reine, mais c'est pas une reine au sens du pouvoir. Voilà. Elle est là pour la cohésion de la ruche, mais les décisions se prennent de façon, pour nous, assez mystérieuse en fait, plutôt collective, quoi. Donc, à s'adapter aux besoins, tout constat amène à une décision collective. Par exemple, on arrive à une période où il y a beaucoup de travail à butiner, etc. Bon, ben du coup, il y aura besoin de bâtisseuses pour construire des cires. Donc ensuite, elles vont entre guillemets recruter plus de butineuses aussi. Enfin, voilà, en fait, elles ont des rôles dans la ruche. On dit qu'elles ont 7 rôles. Et qu'elles ont chacun de ces rôles successivement, chacune dans toute sa vie. Donc, elles peuvent aussi s'adapter, revenir en arrière sur un rôle précédent qu'elles ont déjà eu, etc. Et de la même façon, un autre exemple, c'est la reine. Donc, elle est capable de pondre des œufs mâles et des œufs femelles. Les œufs femelles étant les œufs fécondés, les œufs mâles étant les œufs non fécondés. Et bien, quand il y aura besoin de plus de mâles dans la ruche, les abeilles bâtisseuses vont construire des alvéoles un peu plus grosses qui seront un signal pour la reine de pondre un œuf mâle. Donc, toutes ces décisions qui sont prises de façon spontanée, on va dire. Si on était capable de faire la même chose, nous les humains, mais ça irait beaucoup mieux.
Et c'est quoi les 7 rôles? Parce que vous avez parlé de bâtisseuse, de butineuse. Et quels sont les autres rôles?
Alors, Quand elles sortent de l'alvéole, quand elles naissent en fait, d'abord elles font le ménage. Donc elles nettoient, elles ont un rôle de nettoyeuse. Ensuite elles vont devenir nourricières. Donc c'est elles qui vont donner à manger aux larves du couvain. C'est-à-dire qu'elles vont déplacer, selon les réserves qui sont dans la ruche, elles vont déplacer du pollen, elles vont nourrir aussi de gelée royale, etc. Ensuite, elles vont faire des travaux un peu divers. Elles vont accompagner la reine, la guider pour l'amener là où il faut pondre. Etc. Plein de petites choses comme ça.
C'est les manutentionnaires.
Voilà, manutentionnaires. Elles vont déplacer les réserves pour adapter, pour faire de la place pour le couvain, etc. Ensuite, elles vont devenir cirières. C'est-à-dire qu'elles vont avoir des glandes qui vont pousser sous leur abdomen et elles vont être capables de bâtir elles-mêmes. Donc, ça, c'est assez fascinant à regarder aussi, des abeilles cirières qui sont en train de construire. Parce qu'on les voit faire des chaînes. Quand on regarde un rayon de cire, c'est quand même très géométrique, très régulier, c'est vraiment de l'architecture, quoi. Et en fait, elles le font avec leur étalon maître, c'est leur propre corps. Donc on les voit faire des chaînes d'abeilles, voilà, en train de mesurer en fait. Après, elles vont devenir ventileuses aussi, c'est-à-dire qu'elles vont réguler la température de la ruche en battant des ailes.
Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même une température à peu près proche du corps humain, donc on n'est pas loin des 37 degrés. Donc il y a toute cette chaleur, cet amour en fait, et qu'il va falloir aussi ventiler l'humidité qu'il y a dans la ruche.
Oui, il y a un côté très cocon en fait, et on dit souvent que les abeilles vont dans l'ordre de leur rôle, vont de l'ombre à la lumière. C'est-à-dire qu'elles commencent au cœur de la ruche, elles font tous ces travaux-là, puis petit à petit elles se rapprochent de la périphérie de la ruche jusqu'à en sortir. Donc après avoir été ventileuses, ensuite elles vont devenir gardiennes. Donc elles vont se mettre à l'entrée de la ruche. Et elles vont donc garder la ruche, voilà. Et empêcher les intrus de s'approcher de trop près.
Les abeilles d'autres ruches, par exemple.
Mm. Mais justement, là, on a parlé des ennemis, on a parlé tout à l'heure de quelques maladies. Est-ce qu'il y a d'autres insectes avec qui ils ne sont pas bien copains?
Eh bien oui, le fameux frelon, justement, ouais.
Et pourquoi le frelon attaque les abeilles? C'est pour le miel, non?
C'est pour la viande.
Ah, d'accord. C'est un carnivore. Le frelon est carnivore.
Il aime bien les steaks tartare.
Donc le dernier rôle, c'est celui qu'on voit nous quand on se promène, c'est les butineuses. Elles terminent par ce rôle-là. Alors il y a celles qui vont faire du repérage déjà pour repérer les sources de nectar. Et c'est assez fascinant là aussi de voir comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y en a certaines qui partent en repérage pour voir où est-ce qu'il y a l'eau, où est-ce qu'il y a le nectar, où est-ce qu'il y a ci et ça, le pollen, etc. Et elles reviennent dans la ruche pour informer les copines. Et la façon qu'elles ont de les informer, c'est de danser. Donc la communication de l'abeille, c'est assez fascinant, ça passe par la danse, c'est une danse en 8 comme ça, qui est selon l'angle du 8 qu'elle trace comme ça, elles indiquent aux copines l'angle par rapport au soleil, de la ruche par rapport au soleil, et la direction à prendre pour aller à la source de nectar.
Tout ça en temps réel, hein, le temps qu'elles trouvent la source de nectar et qu'elles reviennent à la ruche, elle est toujours calibrée sur le soleil.
Donc il y a cet angle-là, il y a aussi la fréquence du battement d'ailes, il y a les phéromones qui jouent aussi, qui rentrent. Enfin, il y a tout un ensemble d'éléments qui lui permettent de communiquer. Et après, donc, elles partent butiner, sachant que, ben voilà, justement, du fait qu'elles butinent, ce sont des vieilles abeilles, et donc, en tant que, quand elles sont fatiguées, elles meurent hors de la ruche.
Voilà. Quelle est la durée de vie d'une abeille ?
Ça dépend du moment dans la saison.
Vraiment une dévotion pour la colonie, donc il n'y a pas de « je vais me reposer, j'en ai assez fait, j'ai besoin d'une sieste ». Elle se repose hein, de temps à autre quand même. Mais voilà, une abeille, à peu près, ça va être 4 semaines dans la grosse saison où elle est au taquet. Et après, les abeilles d'hiver, donc c'est les abeilles qui vont plutôt naître vers, par ici, septembre, plutôt octobre, septembre-octobre, et qui vont passer tout l'hiver jusqu'au printemps, donc 3-4 mois, 4-5 mois. C'est ben oui, mais c'est une source d'inspiration, c'est ça qui est intéressant. Quand on me demande comment vont les abeilles, je dis bah autant que notre société.
Qu'est-ce qu'elles produisent, les abeilles ?
Alors, les produits de la ruche, il y en a plein. C'est impressionnant comme c'est riche. Donc oui, évidemment, tout le monde pense au miel. Il y a aussi la propolis. Alors la propolis, ça vient du grec, polis, la cité. Pro, c'est devant la cité. Et en fait, c'est une résine qu'elles fabriquent pour protéger la ruche. Donc pour colmater, pour c'est étanche en fait. Là, c'est une résine qui est faite à partir d'un mélange qu'elles font. Et donc on y retrouve des huiles essentielles, on y retrouve un certain nombre de composants. Et de fait, c'est antifongique, antibactérien. Et il y a un côté aussi antibiotique naturel. Donc alors elles s'en servent pour embaumer les insectes qui rentrent petits dans la ruche et qui y restent et qui grossissent, qu'elles ne peuvent pas faire ressortir. Quand ils meurent, elles les embaument de propolis. Donc voilà. Donc la propolis, on en fait, nous, une alcoolature. Cette alcoolature est très efficace pour booster le système immunitaire et efficace aussi sur toute la sphère ORL, donc toute les voies respiratoires, gorge, nez, bronches. Donc ça accompagne bien la guérison. Ça, ceci est d'avantageux que, comme tous les produits de la ruche, il y a un côté probiotique aussi. C'est-à-dire que c'est à la fois, ça tue les mauvaises, mais ça maintient les bonnes. Donc c'est quand même pratique. Après, dans les produits de la ruche, il y a aussi le pollen. Donc le pollen, elle le récolte, c'est une source de protéines pour elle, donc c'est plus pour le couvain. Et pour nous, bah, c'est pareil, c'est très très riche, c'est un super aliment. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc le venin d'abeille. Le venin d'abeille, c'est utilisé en apithérapie. On peut apparemment soigner certaines maladies comme la sclérose en plaques ou des choses comme ça avec du venin d'abeille. On fait de l'apiponcture.
Alors ma question, c'est comment on récolte le venin d'abeille ?
En fait, on prend une abeille. On appelle ça de l'apiponcture. On pose une abeille au point d'acupuncture, au point à traiter. Donc, par exemple, ça peut être le genou ou autre. On pose une abeille, elle va piquer. Elle va piquer. Voilà.
Après, il y a des techniques aussi pour enlever directement le dard sans tuer l'abeille, parce qu'évidemment, le dard est enlevé, l'abeille va mourir.
Et après, dans les produits, il faut citer la cire aussi, parce que c'est quand même assez merveilleux la cire comme matière première. Ouais, la cire, donc. Il faut faire attention au type de cire qu'on emploie, de cire d'abeille, parce que en fait c'est un corps gras, et en tant que corps gras, ça fixe les métaux lourds. Donc il faut que la cire soit bien de bonne qualité, quoi. Et le miel, évidemment. Alors on n'a pas besoin de la tenue de cosmonaute quand on fait couler. Oh, il y en a souvent un petit peu, mais bon, elles ne sont pas agressives et il n'y a pas besoin de se cacher.
Elles se laissent comme ça voler leur miel.
Ouais, ce que je voulais juste rajouter, c'est par rapport à voler, justement, c'est aussi l'attitude par rapport au rucher, c'est aussi la gratitude et de dire merci. Voilà, il y en a qui font des prières pour remercier quand ils mangent, il y en a qui remercient quand on a des récoltes. Moi, c'est une attitude que j'essaye aussi de développer, de nourrir aussi chaque jour, de remercier en fait l'abeille pour ce qu'elle me donne.
Les viticulteurs font des vins de cépage, hein ? Est-ce que vous faites des miels de cépage, finalement ?
Oui, moi ce que j'aime bien expliquer, c'est qu'en fait, c'est un peu comme en œnologie, on peut parler du miel en termes de cru. Parce que d'une année à l'autre, même si on met les ruches au même endroit, à la même période de l'année, on n'aura jamais deux fois le même miel, en fait. Alors après, oui, on choisit quand même, c'est-à-dire qu'on oriente en les déposant à tel endroit, au moment de la floraison de telle fleur, et on se dit, bon, bah super, on va faire du miel d'acacia. Bon, la preuve que ça ne marche pas tous les ans, parce que cette année, ça n'a pas marché. Le lavandin, pareil, la bruyère blanche, pareil, etc. Donc on va vouloir orienter comme ça, mais après le résultat final, il est toujours un peu surprenant.
Alors des miels de cépage, en vin ils font des assemblages. Pour les apiculteurs, on fait aussi des assemblages.
Il y en a, oui, il y en a qui le font, nous on n'en fait pas, mais ça peut se trouver, oui, bien sûr.
Ouais. Bah, c'est ce qu'on retrouve dans les supermarchés. Hein. C'est du miel de coopérative, en grande partie. Hein. C'est du miel qu'on achète. On va acheter l'acacia en Ukraine ou les pays de l'Est. On va acheter tel ou tel miel dans un autre. Et puis après, on fait un assemblage pour avoir ce qu'ils veulent comme goût et tout ça. Quoi.
D'ailleurs, si vous allez dans un supermarché acheter du miel, c'est assez déconcertant. Il y a un doute sur le miel qui est vendu en France ?
En fait, le problème, c'est pas tant qu'il y a un doute, c'est que l'information, je la trouve assez opaque, moi, sur les pots de miel. Voilà. Souvent, il y a marqué origine UE, non UE, donc on va pas bien loin avec ça. Et ça, on ne sait même pas les proportions. Voilà.
Alors, ça, c'est des miels qui viendraient d'autres pays, UE ou pas UE. Mais moi, je me suis aussi laissé dire que dedans, il n'y avait pas que du miel.
Il y a eu un article, et c'est pas mal en ce moment, sur les fraudes de miel, et en tout cas même dans l'Europe, il y a eu beaucoup d'échantillons qui étaient fraudés, quoi, avec un taux de sucre dedans qui n'était pas... Voilà. Bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, si on nourrit entre deux mielés, rien nous dit que les abeilles ne vont pas remonter le sucre à un moment donné dans l'endroit où on va récolter, ouais. Quoi. C'est difficile à maîtriser, quoi. Donc,
moi, j'ai entendu parler de pratiques où, justement, c'est du miel de sucre, en fait, parce qu'elles n'ont que du sirop quasiment à manger. Et après, on y rajoute des huiles essentielles pour parfumer. Voilà, ça, c'est des choses qui arrivent, qui existent.
J'osais pas le dire, mais il y a des miels qui n'ont pas jamais vu d'abeilles, dont les abeilles ne sont pas les productrices.
Ouais. Finalement, c'est assez peu protégé, l'appellation miel.
Qu'est-ce qui vous différencie de pratiques non bio ?
Alors, le bio, ça a été quand même... c'est perdu, hein, je veux dire. Le niveau du bio, moi quand j'ai fait ma formation agricole en 2010, c'est à ce moment-là où il y a eu une espèce de nivellement de tous les labels bio en Europe, plutôt vers le bas. Donc du coup, la qualité du bio, elle a baissé pour permettre à de plus en plus d'agriculteurs de venir en bio et tout ça. Mais là, actuellement, on a le droit à des insecticides en bio qui sont hyper puissants et qui font autant de mal à la nature, quoi.
Chimique ?
Naturel.
Pas parce que c'est naturel que ça fait rien, quoi.
Le bio, on l'a pris parce qu'on a voulu directement ouvrir sur les magasins bio et tout ça. J'ai traité une fois en chimique contre le varroa dans ma carrière.
Et... Alors, ce miel de Saint-Guillaume-le-Désert, il a un nom. Il est commercialisé sous une appellation particulière. Hein.
Nous, c'est Apis Sophia.
Voilà. Ouais, et on peut le trouver où, Apis Sophia ?
Et on le trouve sur les marchés, en fait, principalement, pour l'instant. Enfin, on le trouve pour l'instant aussi en magasin bio. Mais sur les marchés, c'est Agnan le jeudi matin, Gignac le samedi, Saint-Martin-de-Londres le dimanche, certains festivals.
Arceaux
depuis cette semaine, les Arceaux aussi à Montpellier, le mardi matin. Et donc après, sur des festivals, sur des marchés de producteurs, sur des événements, sachant que voilà, moi je fais aussi des animations qui lient justement le côté poétique avec l'abeille et l'univers de l'abeille. Alors ouais, moi j'ai envie de parler de l'abeille, un peu comme je l'ai fait tout à l'heure, expliquer comment fonctionne une ruche et qu'est-ce qu'il y a d'aussi beau à observer les abeilles. De même, à les écouter aussi, parce qu'en fait, on se met à côté d'une ruche, ça bruisse, ça chante. Enfin, voilà. Et donc d'éveiller un peu à cette beauté de la nature à travers notamment des ateliers d'écriture.
Bien un couple à trois que vous faites, si j'ai bien compris, la poésie, la méditation, et là-bas derrière vous, ces jolis enfants que vous avez, qui sont les ruches et les abeilles. Mathieu et Marion, merci.
Merci à vous.
Merci d'être venus.
C'était Marion et Mathieu Quévreux, un portrait d'agriculteur réalisé par Radio Pays d'Hérault en partenariat avec le Pays Cœur d'Hérault. Retrouvez tous nos podcasts sur rphfm.org.